Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Que nous ouvrions deux textes dans notre Bible. Le premier se trouve dans le livre du prophète Osée. Voilà, ça, ce sera notre première lecture. Et voilà ce que nous lisons. Osée, je ne vous ai pas dit le chapitre 6. Chapitre 6 et le verset 3. Ce sont assurément de belles paroles. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Alors voilà la première proposition. La deuxième, nous allons ouvrir l'évangile de Marc. Alors, évangile de Marc. Chapitre 8. Le verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et il leur posa en chemin cette question : Qui suis-je au dire des hommes ? Qui dit-on que je suis ? Ils répondirent : Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes, et vous, leur demanda-t-il : Qui dites-vous que je suis ? Pierre lui répondit : Tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors voilà pour notre situation. Alors nous avons lu dans ce livre d'Osée qu'il y avait tout un mouvement parmi les contemporains du prophète. Ils s'étaient probablement donné le mot en disant : Mais cherchons et connaissons l'Éternel. Voilà. Et puis, le Seigneur a envoyé son Messie. Et quand le Messie, que nous connaissons naturellement sous le nom de Jésus, Messie pour les Juifs, eh bien, en fait, de chercher et de le reconnaître ou de le connaître, eh bien, nous pouvons dire qu'il a été rejeté et méconnu. Alors, c'est quand même le paradoxe, parce que c'était apparemment une belle prière. Mais vous savez que le sujet de Jésus a toujours été un objet de contestation, de perplexité. Si l'on se fie tout simplement eh bien, à cette prophétie qui s'accomplira une trentaine d'années plus tard, prophétie de cet homme que l'on appelle Siméon, au moment de la naissance de Jésus, Siméon prophétisera et dira : Mais cet enfant deviendra une source de contradiction, de contestation, et il provoquera finalement la chute de plusieurs, le relèvement, mais en même temps la chute de plusieurs. Les uns croiront, les autres refuseront. Et la fin de cette prophétie de Siméon était celle-ci : afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et vous savez que 2000 ans après, eh bien, c'est toujours le même problème qui subsiste. Il y a des gens qui vont, en entendant le nom de Jésus et le message de Jésus-Christ, qui vont adhérer, et puis d'autres qui refuseront ou qui donneront des interprétations complètement fallacieuses, toutes sortes de conceptions philosophiques, enfin, chacun ira un petit peu avec ce qu'il pense. Et c'est pourtant une préoccupation, hein. Dans un grand journal national, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est affiché un petit peu partout en ce moment. Qui est Dieu ? Vous l'avez vu, hein. Alors c'est intéressant parce que ça reste quelque part une préoccupation de toujours, de savoir qui est Dieu, est-ce qu'il existe, s'il existe, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait encore aujourd'hui, et puis ce Messie, et puis ce Sauveur, où est-il? Comment est-il? Qu'a-t-il dit? Alors, en ce qui concerne ce qu'il a dit et ce qu'il est, c'est facile à découvrir, il suffit d'ouvrir la plus simple de toutes les Bibles, et on découvre finalement, eh bien, ce qu'est Jésus. Je voudrais, en préambule, rappeler ceci, c'est qu'avant la chute, l'humanité jouissait de la communion totale et parfaite avec son Créateur. Depuis, cette même humanité a perdu le sens et la connaissance de son Dieu et de son Créateur, d'où la grande confusion aujourd'hui. La confusion, nous la trouvons dans la bouche d'une femme qui rencontrera un jour Jésus. Où faut-il adorer? Est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est là? C'était la Samaritaine. Mais pour montrer que, en fonction des cultures, en fonction des pays, en fonction des latitudes sous lesquelles les hommes vivent, eh bien chacun y va un petit peu de son explication. « Ah, Dieu, pour moi, c'est ici. » Ou c'est ceci, et voilà ce qu'il a fait pour moi, et puis pour d'autres diront, mais il n'existe pas, parce que finalement, il n'a rien fait, puisque nos origines sont tout, sauf des origines, eh bien, divines. Alors la confusion, elle est là, et c'est ce qui amènera l'apôtre Paul à écrire en ce qui concerne le monde. Et il parlera du monde de son temps comme le nôtre, on pourrait dire la même chose, et il dira, les hommes ont l'intelligence obscurcie. Il ajoute ceci, ils sont étrangers à la vie de Dieu, et cette distance, cet éloignement de Dieu, est causé, écrira-t-il, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'ignorance qui est en eux. Vous vous souvenez de ce que nous avons lu dans le livre d'Osée? Cherchons et connaissons Dieu, et il se manifestera comme l'aurore. Voilà. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas dans notre société, ça n'a jamais été le cas à travers tous les temps que l'homme a traversé. L'homme a imaginé des choses invraisemblables pour se rapprocher de son Créateur. Il s'est imaginé qu'on pouvait rentrer en communion avec lui avec des idoles. La première, ô combien abominable, fut le veau d'or des Hébreux dans le désert, à travers des statues, l'adoration ou essayer de se rapprocher par les astres, et puis toutes sortes de représentations de la nature, et tout cela eh bien était en pleine contradiction avec le deuxième commandement de Dieu parmi les 10, tu ne te feras pas de représentation ou d'image taillée, en s'imaginant que finalement eh bien Dieu se trouve dans ce que l'homme est capable de faire de ses mains et ainsi de lui rendre un culte et de déclarer une religion. La Bible dit que c'est dans la personne de Jésus-Christ que Dieu a voulu se révéler à ses créatures et ce que l'on peut connaître de Dieu nous est révélé en lui et par lui, à tel point que Jésus l'affirmera dès l'ouverture de l'évangile de Jean, il dira « Personne n'a jamais vu Dieu ». Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, c'est clair, si nous voulons et si nous avons en quelque sorte, ou si nous avons l'intention ou l'aspiration à nous rapprocher de Dieu ou à connaître Dieu, vous avez compris, il nous est dit que c'est en Jésus-Christ que nous apprenons, que nous découvrons qui est Dieu. À tel point que le livre des Hébreux, parce que je vais citer des versets bibliques, mais ils sont importants, il nous parlera de Jésus comme étant le reflet de la gloire divine et l'empreinte de sa personne. Voilà. Donc, en conclusion, première conclusion, Jésus est venu réconcilier les hommes avec Dieu et les ramener dans cette intimité première qui a été perdue naturellement, et vous savez où, dans le jardin d'Éden. La foi ici-bas, c'est une nécessité pour retrouver Dieu, alors que de l'autre côté, pour ceux qui sont sauvés, nous ne marcherons plus par la foi, mais nous marcherons par la vue. Ça sera tout à fait la différence, naturellement. Alors, nous l'avons lu et je le répète, je le rappelle, Jésus s'en alla avec ses disciples et il leur fit en chemin cette question « Qui dit-on que je suis ?» Si je vous posais la question cet après-midi à chacun et à chacune, vous n'auriez probablement aucun problème pour me répondre et vous ne me feriez pas une grande théorie pour m'expliquer qui est Jésus pour vous. Vous me diriez en deux mots, eh bien moi, pour moi, Jésus, c'est mon sauveur. Et il m'a sauvé, il m'a pardonné, je sais que j'ai la vie éternelle, il m'a changé, transformé, et je l'ai découvert, eh bien tout simplement à travers sa parole. C'est dans sa personne que maintenant je peux m'approcher tout simplement de Dieu. Qui dit-on que je suis ? A priori, il semblerait que ce soit une question étrange, mais Jésus veut savoir de la bouche même de ses disciples l'opinion de ses contemporains. Alors il ne s'agit pas d'une réponse des chrétiens que nous sommes, ni des disciples qu'ils étaient parce qu'ils avaient suivi Jésus, mais plutôt de faire un petit sondage. Vous savez, comme il y en a tant, des sondages dans notre monde d'aujourd'hui, il n'y a pas un fait politique ou un fait religieux ou d'une manière ou d'une autre sans qu'il y ait des sondages. Qu'est-ce que vous pensez de ceci et qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est véritablement la démocratie, on a compris. Mais qu'est-ce que peuvent penser les gens? Un sondage. Et on s'aperçoit que c'est très contradictoire. Les sondages d'hier et les sondages d'aujourd'hui amènent souvent beaucoup plus de contradictions, d'éclaircissements. Et on s'aperçoit que déjà, à l'époque, il y avait une contradiction rapportée par la bouche des disciples, mais une contradiction quand même. Alors ils répondirent, nous avons entendu dire que tu es Jean-Baptiste. Voilà. Alors qu'on savait pertinemment que Jean-Baptiste avait perdu la tête. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Nous avons entendu dire par d'autres que tu es l'Élie qui devait revenir sur la terre, le prophète Élie, ressuscité. Les autres diront, eh bien, mais tu es un des prophètes de toute cette longue lignée d'hommes de foi, d'hommes de Dieu. Les uns disent, les autres disent, ils prétendent ceci. Alors c'est véritablement, eh bien, une confusion. Et si nous restons dans cette mouvance, eh bien, on comprend que les gens ont du mal, finalement, à s'y retrouver dans le cadre de toutes les religions qui existent de par le monde. Certains vous diront, mais moi je me suis tourné vers Confucius, d'autres vers Bouddha, d'autres vous diront, eh bien moi c'est le christianisme, mais une partie du christianisme, parce que je crois que c'est cette partie-là qui a la vérité, les autres se trompent. D'autres vous diront, eh bien il faut aller à la Mecque, donc c'est l'islam, et puis ceci, cela, etc., réponse confuse, imprécise, qui dénote de toute façon une profonde ignorance des gens qui vivaient déjà même du temps de Jésus. Pourtant, la nation d'Israël avait été préparée pendant des siècles et des siècles à attendre et à accueillir et à reconnaître le Messie. Et on sait très bien ce qu'ils en ont fait. Aujourd'hui, le nom de Jésus dans nos sociétés occidentales est très bien connu. Jésus-Christ, vous posez, tout le monde vous dira, mais on a entendu parler de lui. Ça, c'est certain. C'est ponctué à Noël, par des fêtes, à Pâques, et ceci et cela. Tout le monde en a entendu parler. Mais si nous allons un peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a pour un peuple chrétien, pour une nation chrétienne, qu'il y a une ignorance, une méconnaissance étourdissante qui nous stupéfait. Alors l'opinion des hommes sur Jésus, il faut le dire, hier et aujourd'hui, est le plus souvent fondée sur une connaissance historique. Voilà. L'histoire, on l'a rangée parmi tous les grands personnages qui sont apparus sur la terre. Homme né sur cette terre, et qui se sont distingués par des fêtes, par des paroles, par les talents, les arts, la guerre, enfin toutes sortes de choses. Et on s'aperçoit que les gens restent là-dessus, connaissance historique. Et cette connaissance est forcément intellectuelle et superficielle. Et c'est-à-dire, avec cette connaissance, les gens veulent pas savoir plus. Parce que c'est quelquefois dérangeant. Vous savez, on a des gens qui s'intéressent passionnément à l'histoire. Et quand ils ont à cœur un personnage, ils vont fouiller, ils vont plonger dans son temps, ils vont expliquer, ils vont écrire des livres et des livres sur cette personne-là, et on va en savoir davantage, parce que bon, il y a aussi du romanesque dans tout cela. Mais néanmoins, qu'en ce qui concerne Jésus, il est né, il paraît, il y a 2000 ans, plus que cela, hein, dans un pays, on ne saurait même pas dire où, mais dans un pays qui s'appelle Israël. Et puis, on a appris que quelques années plus tard, on l'a crucifié. Point final, on ne veut pas savoir de... On nous dit, certains nous disent qu'il est même ressuscité. Mais on ne veut pas, aller au-delà de tout cela, parce qu'on préfère se contenter à ce que tout le monde dit la même chose, ou des choses diverses, mais tout le monde a un même langage dans ce domaine, mais on ne veut pas s'aventurer. Et il y a manifestement un manque d'intérêt pour sa personne et pour son œuvre. Parce que le personnage Jésus subsiste encore à travers des siècles et des siècles. Il y a dans Par le Monde, certainement, ce nom est prié, ce nom est loué, ce nom est adoré, ce nom est vénéré, ce nom remplit des, je pourrais dire des milliards de cœurs. Pas seulement des millions, mais... Alors que, bon, des gens qui ont marqué l'histoire, Napoléon, César, Louis XIV, Charles Quint, les plus grands empereurs du monde, bon, ben voilà, ils sont passés. Mais Jésus, ça reste quand même une préoccupation. Mais on ne veut pas aller au-delà. L'opinion générale sur Jésus au travers des siècles, c'est intéressant de le prendre en considération. Alors avant Jésus, Dieu avait parlé et il avait fait des promesses qui étaient faites et destinées à son peuple, les Juifs, qui étaient des promesses qui étaient sans équivoque concernant le Messie. Ah, il y en a plein dans l'Ancien Testament, où Dieu fait la promesse qu'il enverrait, et bien là, l'envoyé du ciel, et qu'il ferait des choses extraordinaires, et le plus extraordinaire qu'il accomplirait, c'est qu'il serait Dieu, et il se comporterait, il manifesterait, toute la puissance, du Créateur de Dieu. Pourtant, je l'ai dit, je le répète, beaucoup l'attendaient d'une manière différente. Ils pensaient attendre un Messie glorieux qui viendrait, et qui, entre autres, puisque le peuple d'Israël était sous l'occupation de la tyrannie de Rome, que lui, ce Messie, serait un nationaliste, il chasserait tout cela. Alors quand ils l'ont vu arriver en faisant des miracles, ils se sont dit, c'est peut-être lui. Et finalement, il les a énormément déçus parce qu'à la croix, il s'est laissé faire. Et ça, c'était quand même un renversement. Homme, Messie glorieux, homme tout simple, passant au milieu du peuple comme tous les autres hommes. Quand Jésus est venu, la majorité de ceux qui l'attendaient ne l'ont pas vu, je dis bien. Alors encore moins reconnu, ils ne se sont même pas posé la question. Et ils ne voulaient pas se poser la question parce qu'ils étaient bourrés. Excusez-moi le mot, c'est pas beau. Mais ils étaient pétris, bourrés, perclus de préjugés, en disant ça peut pas être ça. Ce paysan, là, qui se dit prophète, venir de Nazareth en Galilée, mais c'est pas possible. Donc il y avait un aveuglement. Alors, et particulièrement, ceux qui ont été les plus aveugles dans la reconnaissance de leur Messie, c'était les gens religieux, le monde religieux, et les pharisiens, les sadducéens, les scribes, tous ces gens de la loi, et par contre, ceux qui normalement étaient les rejets de la société, ceux que l'on disait, ils n'ont aucune notion morale, ces gens-là, donc ils ne sont probablement, absolument pas aptes de pouvoir avoir une petite idée de ce que serait le Messie d'Israël sauveur. C'était précisément cette fange, excusez-moi le mot, mais ces publicains, ces gens qui ne mettaient jamais les pieds au temple ou dans les synagogues, qui avaient une vie douteuse, voire même honteuse, telle que les prostituées, ce sont elles. Ce sont ces gens-là qui ont acclamé Jésus. C'est quand même assez paradoxal, il faut quand même le l'avouer. Et c'était toujours la confusion d'alors, puisque je lis ceci, les gens de la foule disaient, ça c'est encore à faire ressortir ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Je cite un autre passage, il nous est dit, mais quand il était question de Jésus, la foule disait, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. D'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Il y eut de nouveau une division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Alors imaginez-vous, Il l'avait devant les yeux, et voilà le langage qu'il tenait. Nous n'avons plus Christ devant les yeux, et puis les gens continuent à allègrement rester dans leur ignorance sans vouloir savoir ce qu'il en est. Et quand quelquefois on essaie de faire une petite étude en dehors du contexte de la révélation biblique, je peux vous dire qu'on vous écrit n'importe quoi sur Jésus. Qu'il était faire un petit tour aux Indes, qu'il était marié, qu'il avait des enfants. Oui. Ah, vous comprenez, hein? Je vous choque pas, j'espère, hein? Mais vous savez qu'il sort des drôles de livres, hein? Et puis les miracles sont expliqués d'une manière tout à fait étonnante aussi, hein? Ah oui, on a entendu des choses dans la théologie moderne du 19e siècle, théologie moderne, hein, comme le quoi la multiplication des pains, je vous expliquais quelque chose, vous allez voir, c'est assez surprenant. Le jour où Jésus, on dit que le jour où Jésus a multiplié les pains, Jésus a un signal donné après avoir rendu grâce, a demandé à chacun de sortir son sandwich de sa poche. Je sais pas s'il y avait du pain et du poisson, mais c'est ça, hein. On a trafiqué, on a dénaturé, on a complètement, voilà. Alors c'est pour vous dire, hein. Pour vous dire où on en est rendu. Pourquoi l'écoutez-vous? Mais c'est un fou, Jésus. Il a un démon. Pourtant, les preuves étaient sous leurs yeux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Parce que c'est intéressant, on a fait un petit tour dans l'histoire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? L'opinion de notre monde dit chrétien, vous vous rendez compte? Et ça fait quand même plus de 2000 ans que notre Occident a été pétri de la pensée chrétienne, dans la culture chrétienne, dans la connaissance chrétienne. Que dit-on de Jésus? On n'en dit pas que des belles choses, hein. Parce que souvent, les petites histoires grivoises, Jésus en fait partie, hein. Ouais, on a entendu des chansons qui ont eu une certaine époque, un certain succès, je n'irai pas vous les rappeler parce que c'est, moi pour moi, c'est bon. Mais toujours est-il qu'on a mis Jésus, eh bien, comme on l'a voulu, tout simplement. Mais comme dans le psaume, hein, David disait, mais ils me mettent en chanson avec toutes sortes de moqueries et toutes sortes de ridicules. Ça s'est écrit dans un psaume. Alors, que fait-on de Jésus? Que pense-t-on de lui? Est-ce qu'il est le sauveur, oui ou non? Est-ce que, dans ma propre vie personnelle, est-ce qu'il est, quelque part, quelqu'un qui compte? Quelqu'un qui a une importance ou, accessoirement, quand j'ai mal aux dents ou quand je me suis blessé, alors je le prie parce que j'ai peur. Vous comprenez? Quelle réaction? Que fait-on de Jésus? Que dit-on de Jésus? On sera surpris d'apprendre qu'aujourd'hui comme hier, la même confusion, voire la même gêne demeure. Et je dirais que c'est plus une gêne aujourd'hui. Vous savez, vous pouvez parler de n'importe quoi, au bureau, à l'entreprise, à des amis à table, etc. Vous pouvez parler de toutes sortes de choses, politiques, les arts, la culture, ce qui se passe ici, ce qui se passe ici ou là. Eh bien, vous abordez en plein milieu du repas en disant « je voudrais vous parler de Jésus ». Vous allez voir, ça va leur couper l'appétit. Par politesse, les gens se taisent, surtout quand ils sont en groupe. Quand une personne est toute seule, c'est pas pareil. À l'abord est tout à fait différent, vous savez. Mais là, je lui dis, écoutez, moi, je voudrais vous parler de quelqu'un que je connais bien. Alors, les gens commencent à dresser l'oreille, enfin, dresser l'oreille, c'est façon de parler, mais ils sont attentifs. Et quand vous commencez à parler de Jésus, alors là, il y a une gêne, il y a comme une honte, il y a un embarras. Ça les met mal à l'aise. Pour nous dire que notre monde est christianisé dans ses formes, mais ce même monde, le monde, le nôtre, témoigne de son indifférence, de sa folie, voire parfois meurtrière quand on touche à des choses qui les dérangent, hein. Ses haines et son profond rejet de Dieu. Ne me parlez pas de Jésus, ne me parlez pas de Dieu. La connaissance que le monde se donne sur Jésus est celle d'un sauveur universel, et là ça gêne moins. Par exemple, où la notion de salut individuel et personnel est exclue. Oui, je crois que Jésus est venu il y a très très longtemps, c'est perdu dans le temps tout cela, et je crois que c'est vrai qu'il est, il est venu pour sauver les hommes du monde entier. Alors, j'en ferai peut-être pas partie, j'en ferai partie, je ne sais pas, mais c'est pas ma préoccupation du moment, voyez-vous, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Alors, on le met là, il est diffusé, il est perdu, il est complètement dans un monde nébuleux, on pourrait dire, des choses. Mais pourtant, c'est toujours Paul qui dira et qui écrira ces mots, « Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et principalement de ceux qui croient. » Eh ben voilà, et donc là, ça s'approche, on approche peut-être un peu plus de la vérité. Parce que si je suis croyant, si je crois, si je suis chrétien, alors à ce moment-là, ce n'est plus d'une manière vaporeuse et universelle que les hommes sont sauvés. C'est vrai que c'est la réalité, mais c'est moi personnellement, et ça change tout. Alors à ce moment-là, je saurai parler, je saurai dire, et je saurai expliquer qui est Jésus, parce que c'est beaucoup plus proche. Je dirais que c'est même pas avec moi, c'est en moi, c'est profondément en moi. Sauveur de tous ceux qui croient, donc, ça implique ce qui nous ouvre la porte du salut, le pardon de nos péchés, l'assurance de la vie éternelle, eh bien ça s'appelle la foi. Et sans la foi, nous ne pouvons pas être sauvés. Or, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui croit, eh bien croit que Dieu existe et qu'il est celui qui répond, rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, ça m'intéresse. Ça me concerne personnellement. C'est pas une belle histoire de Jésus perdu dans le monde entier, mélangé avec toutes les religions du monde, mais là, c'est autre chose. Et combien se déclarent croyants, mais combien ont réellement la foi? C'est le problème des religions chrétiennes. Et je ne porte pas de jugement, je ne porte aucun jugement sur quiconque. Mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament de Christ, mais à l'occasion. Qui se réclament de Christ à l'occasion. Mais en faire un sauveur de chaque instant, celui qui a pris notre vie, celui qui remplit notre cœur, sentiments, nos pensées, notre conscience, notre intelligence, et qui nous rend profondément heureux de le connaître, et désireux de le faire connaître à d'autres, eh bien ça c'est autre chose. Paul ajoute ceci, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et c'est bien ce que Jésus voulait entendre, et c'est certainement ce que Jésus voulait susciter dans le peuple d'Israël, pour qu'ils parviennent, non pas seulement à une amélioration de la foi dans la loi de Moïse, mais qu'ils puissent passer le cap, finalement, de la foi, de la loi, pardon, à la loi, de la loi à la foi dans la grâce de Dieu. Excusez-moi, c'est difficile quelquefois, parce que les mots se ressemblent. On y arrive quand même en persévérant, voyez. Une simple opinion sur Jésus ne nous assure pas le salut. Il faut une expérience. C'est pas parce que j'ai entendu parler de Jésus, ce n'est pas parce que, étant petit, j'ai été quelques années à un catéchisme quelconque et l'on m'a enseigné, ce qui m'a intéressé, assurément, c'est vrai. On peut pas dire le contraire. Mais c'est pas ça pourquoi j'avais une assurance et une certitude dans mon cœur. Il a fallu autre chose. Il faut une conviction. Et la parole de Dieu le martèle, l'Évangile nous le dit, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Ce n'est pas une foi de tête, ce n'est pas une foi cérébrale, ce n'est pas une foi de matière grise, mais c'est une foi au niveau de notre cœur. Tu seras sauvé. Et c'est là où beaucoup répondent devant cette affirmation biblique. Eh bien, vous savez, moi, j'ai ma religion, j'ai mes croyances, je suis sincère. Alors, en fait, sincérité, on peut être sincère dans l'erreur. Et c'est l'histoire, par exemple, d'un homme que nous connaissons bien, c'est Paul, hein, qui nous est rapporté le jour où il a fait une rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. C'était un homme profondément religieux, rappelons-le. Et puis c'était un militant très engagé pour ce qu'il croyait être juste et vrai. Et finalement, sur ce chemin de Damas, Jésus lui apparut. Et là, ça a été quelque chose d'étonnant ce qui s'est passé, parce que le premier mot que l'apôtre Paul a prononcé, enfin il ne s'appelait pas encore l'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse, mais le premier mot qu'il a prononcé était une question troublante pour un homme qui prétendait connaître Dieu, qui l'avait servi depuis sa plus tendre enfance dans le judaïsme, et vous savez qu'est-ce que c'était? Mais qui es-tu, Seigneur? On s'aperçoit que l'on peut avoir une religion, que l'on peut avoir été élevé dans une culture religieuse quelle qu'elle soit, et rien connaître, finalement, eh bien de Dieu et de Jésus. Mais qui es-tu, Seigneur? Bien que Paul ait été un homme profondément religieux, et il ignorait Dieu, mais il était sincère. À l'exemple de Paul, une rencontre personnelle avec Jésus peut engendrer une véritable connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul, et il a été choisi par Dieu pour devenir l'enseignant, l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur de toutes les nations païennes. Et c'est venu jusqu'à nous. Si on ne s'en souvient pas, eh bien c'est comme ça que ça s'est passé. Et même plus tard, il confessera dans une de ses lettres, il dira « Moi qui étais auparavant un blasphémateur ». Pourtant, c'était un croyant. C'était un bon juif, un blasphémateur, un persécuteur. J'étais un homme volant. J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et si quelqu'un avait la connaissance, c'est quand même l'apôtre Paul. Mais il agissait, dira-t-il, dans l'ignorance de la vérité, dans l'ignorance de la révélation qui fait vivre, la révélation de Dieu qui fait vivre, du salut, du pardon des péchés. Il tournait depuis toujours dans son ronron religieux, dans ses habitudes religieuses, dans ses traditions, mais il dira « j'étais un ignorant de la vérité, de ce qui plaît réellement à Dieu ». Et il dira « mais dans l'incrédulité, parce que l'incrédulité nous fait mourir, mais la foi nous fait vivre ». Et c'est la foi qui nous donne la connaissance. Alors Dieu propose une rencontre de réconciliation à tous les hommes. C'est pourquoi déjà dans le fond des âges, dans l'Ancien Testament, c'était le prophète Amos qui criait à qui voulait l'entendre « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ça, c'est la première condition de se préparer. Cette préparation consiste en une reconnaissance sans détour dans notre état de cœur. Ou si vous aimez mieux, je vais mettre un autre mot qui rime pareil, notre état de pécheur, puisqu'il nous est dit que tous les hommes sont pécheurs et ils sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un autre exemple, c'est celui de Pierre. Oui, Pierre, vous savez que l'histoire de la pêche miraculeuse, oui. il a appris à connaître Jésus lui aussi. Et il pouvait dire, et c'est lui qui est dans le texte que nous avons lu, il pouvait dire, mais tu es le Christ, le Saint de Dieu, le Sauveur des hommes. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Pierre? Sans s'y attendre, l'homme que l'on appelle Jésus monte dans sa barque, finalement, et Jésus va enseigner la foule. Alors à un moment donné, après avoir enseigné la foule, Jésus va demander ensuite à Pierre d'avancer en pleine eau et de jeter ses filets. Pierre, sans comprendre, va jeter les filets, il obéit, et il va y avoir un miracle qui se produit. C'est une pêche extraordinaire, ce qu'on a appelé la pêche miraculeuse. Alors à ce moment-là, Pierre va avoir une réaction qui mérite, finalement, que nous disions quelques mots. Pierre est un homme bouleversé. Quand il voit cette pêche miraculeuse, il est bouleversé par la puissance de Jésus, il est confondu, et à ce moment-là, il va tomber aux genoux de Jésus. Il va s'effondrer, il est convaincu, et il va reconnaître que Jésus n'est pas un homme comme tous les autres. Et il va, à ce moment-là, avoir une appréhension, même voir la peur, une frayeur. Et il va dire, mais retire-toi de moi, Seigneur, retire-toi de moi, Jésus, parce que je vois que tu es le Saint de Dieu. Eh bien, c'est ça la conversion. C'est pas seulement la repentance chez Paul, mais c'est de se tourner, s'abaisser, et de reconnaître à ce moment-là que nous avons besoin de Jésus. Et Jésus pourra dire, qui dit-on que je suis? Ceux qui ont fait l'expérience de Paul, ceux qui ont fait l'expérience de Pierre, pourront dire, moi je sais que Jésus est mon Sauveur. Il est le Seigneur, il est le Créateur de toutes choses. Quand il vit cela, Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Il a été touché dans sa conscience. Ce qui nous amène à dire que rencontrer Jésus nous amène à nous reconnaître pécheurs, perdus, et à nous humilier. Deuxième condition, la confession de notre foi. C'est comme ça. Il y a l'histoire de ce geôlier, vous savez, dans la prison de Philippe. Cet homme est à l'extrémité, il est au désespoir. Et il va dire à Paul et à Silas, il va dire, mais Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ce à quoi les apôtres, Paul et Silas, répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et il crut lui et toute sa maison. Il y a une confusion, une confession de foi, une profession de foi, il confesse. Il y en a d'autres, je pense à l'eunuque, qui lui va avoir une confession de sa foi en Jésus et avec un engagement que l'on appelle le baptême. Ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, et il a été baptisé immédiatement. C'est comme ça qu'on connaît Jésus. Et le baptême dont il est parlé pour cet homme n'est que la porte d'entrée. Et nous connaîtrons encore, et nous connaîtrons toujours davantage, et nous grandirons dans la connaissance. Non pas pour devenir des savants, des théologiens, mais avec une foi pratique nous pourrons dire et nous pourrons confesser autour de nous que Jésus est réellement vivant, il est ressuscité, il est notre Dieu, il est tout pour nous. J'ai lu le texte tout à l'heure, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que l'aurore. Eh bien, c'est ça ce que les hommes ont besoin. Mais qui le cherche? Qui recherche Jésus? Qui s'approche de lui? En dehors d'une tradition religieuse, en dehors d'une démarche forcée, en dehors d'une démarche qui serait le produit de la peur ou de la crainte, mais d'une véritable démarche par besoin, par aspiration, par souci de vérité, de justice et d'éternité. Connaissons, cherchons l'Éternel, sa venue est aussi certaine que l'aurore. Nous n'avons pas à douter de rencontrer Dieu à un moment ou à un autre dans notre vie. Nous sommes en quelque sorte les ambassadeurs de son royaume pour nous dire que c'est, pour dire à quiconque que c'est possible. J'ai rencontré Jésus dans ma vie. Nous avons rencontré Jésus dans ma vie, d'une manière ou d'une autre, différente certainement. Et tout cela, il faut faire cette recherche honnête. À tel point que c'est pas une histoire nouvelle, mais déjà, Dieu avait fait dire à Moïse, au peuple hébreu, si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force, je me laisserai trouver par vous. Vous rendez compte? C'est pas difficile de chercher Dieu. C'est pas difficile de le rencontrer, mais il faut y mettre en notre cœur. Autrement, c'est beaucoup plus difficile. Dieu ne se cache pas pour l'âme qui le cherche vraiment. Et des mots comme désirer, des mots comme aspirer, des mots comme avoir faim et soif, nous les retrouvons partout dans la Bible. Et ce sont ces mots-là qui expriment une action, qui expriment un besoin, qui expriment un mouvement du cœur, de la conscience, de l'esprit de l'homme, c'est-à-dire l'essentiel, eh bien, qui nous amène véritablement à nous mettre sous le regard de Dieu, et c'est lui après qui va faire le reste, qui va nous conduire et nous guider. Connaître Dieu, c'est connaître forcément une vie nouvelle. C'est pas rester dans le train-train d'une religion. C'est pas de rester toujours dans des rites, dans toutes sortes de choses. Jésus n'en avait que faire, puisqu'il le dira à ses contemporains. Vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous connaissez le reste, naturellement. Et ça, c'est quelque chose que les hommes n'aiment pas entendre. Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que vous pouvez dire que je suis? Qu'avez-vous fait comme expérience pour dire qui je suis? Devenir un homme nouveau, voilà l'aboutissement. Selon ce qui est promis par Dieu, je vous donnerai un cœur. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent, qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voilà. En conclusion, que faut-il? Une opinion ou une conviction? Il y a des millions et des millions de gens autour de nous qui ont une opinion. Mais l'opinion n'a jamais sauvé quelqu'un. Il faut une conviction. Et cette conviction, nous l'atteignons dans la mesure où nous laissons le Seigneur nous approcher. Laissons-lui nous parler, nous donner finalement, eh bien, toutes les promesses nous concernant et concernant la généralité des hommes, et de pouvoir les recevoir avec un cœur, non pas rebelle, non pas contestataire, mais avec un cœur qui s'ouvre et qui est prêt finalement à recevoir, entendre et à croire surtout. Opinion ou conviction. Et dans notre texte pour terminer, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Les mêmes questions pourraient être posées à Paul, à Jacques, pourraient être posées à tous les hommes de l'Église primitive, à ceux qui sont venus là à travers les siècles, le Moyen-Âge, à travers tous les temps, jusqu'à nous. Qui dit-on que je suis? Pierre a donné la bonne réponse. Moi, je te réponds, Seigneur, que tu es pour moi le Christ. Tu es mon sauveur. Tu es le Seigneur et le sauveur de tous ceux qui croient et qui veulent bien véritablement t'accepter comme personnellement. En résumé, croyance vague et générale ou foi authentique et personnelle. Voilà, c'est en opposition. Où en sommes-nous? Je sais où vous en êtes. Rencontre personnelle avec Jésus, ça implique une repentance. Ça implique une confession de foi, un engagement de notre vie. Le salut n'est pas quelque chose que d'autres décident à notre place. C'est nous, pour notre compte. Et je termine. Job, qui était un homme pieux et intègre, lorsque toutes ces difficultés et voire fléaux, calamités et catastrophes sont arrivées sur la vie, c'était un homme droit, juste et intègre. Et puis après toute cette série de choses extrêmement difficiles et malheureuses qu'il a connues, il dira, il parlera, il ne tiendra pas le même langage. Il ne servira plus Dieu de la même manière, parce qu'il confessera « Avant, mon œil avait entendu parler de toi par les autres, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon cœur t'est acquis, Seigneur, parce que j'ai appris qui tu es, mon Dieu. » Comme pour tous ceux et celles qui aujourd'hui s'approchent de Jésus, ils ont peut-être entendu parler de Jésus, mais aujourd'hui, ils l'ont vu. Ils ont fait une expérience avec lui. C'est pourquoi la foi évangélique, elle est avant tout basée sur la parole qui suscite la foi, mais la foi évangélique, elle est expérimentale. Elle a une valeur d'expérience. C'est pour ça que nous sommes des gens engagés et nous avons le souci de faire connaître aux autres pour que ensuite ils ne puissent pas rester dans l'ignorance ou dans la méconnaissance et qu'ils puissent dire, eh bien moi, à mon tour, j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Jésus, je te connais. Jésus, je sais qui tu es. Alors, cherchons. Connaissons à chercher, à connaître Dieu, parce que sa venue est aussi certaine que l'aurore. Et là, à ce moment-là, selon la promesse du prophète, il viendra pour vous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Quel rafraîchissement, quelle bénédiction, quelle grâce, quel bonheur, quelle joie, quelle allégresse de savoir qui est véritablement Jésus et de vivre avec lui et lui vivre avec nous et plus que cela, vivre en nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Nous allons prier quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que là, où nous sommes véritablement dans un siècle d'investigation tous azimuts, où les hommes essaient de percer les mystères de l'univers, essaient, Seigneur, de voyager à travers le firmament, essayer de déceler, Seigneur, là, sur les étoiles les plus lointaines, Seigneur, de notre planète, eh bien, s'il y a ceci et cela, là où les hommes regardent dans l'infiniment grand, ou plongent peut-être dans l'infiniment petit, le microcosme, eh bien, nous voulons croire, Père éternel, qu'il y a une révélation, Seigneur, qui est au-dessus de tout. C'est connaître Jésus. Et ainsi, Seigneur, de pouvoir répondre à cette question, qui dit-on que je suis ? Seigneur, en effet, nous croyons que ce n'est pas une réponse seulement de l'histoire. Ce n'est pas une réponse qui a un caractère culturel. Ce n'est pas une réponse seulement, Seigneur, qui tiendrait dans les limites de la morale, de la philosophie, de la science. Mais Seigneur, c'est véritablement plus que tout cela, Seigneur. C'est une rencontre avec celui qui est vivant, celui qui est mort pour moi, mais qui est vivant parce qu'il est ressuscité, et qui a en effet illuminé, Seigneur, mon esprit, ma compréhension, et qui m'a donné de te connaître, de te connaître à travers, Seigneur, une démarche qui est avant tout une démarche du cœur, de mon cœur. Seigneur, je te demande de bénir ta parole et qu'ainsi, Seigneur, ce que nous avons besoin, Seigneur, ce n'est pas seulement la lettre qui tue, certainement pas, mais nous avons besoin de l'Esprit parce que l'Esprit donne la vie, il vivifie et il nous fait rentrer dans une autre dimension. Alors, Seigneur, nous pouvons dire, cherchons, connaissons à connaître, cherchons à connaître l'Éternel. Parce que sa venue est aussi certaine que l'aurore. Alors c'est vrai, demain matin il fera jour. Eh bien nous croyons, Père éternel, que celui qui te cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force, eh bien tu te feras connaître à lui. Et ce sera un nouveau jour. Ce sera un jour d'éternité, Seigneur. Connaître Jésus, c'est connaître l'éternité. C'est la vie à jamais. Et nous te bénissons et nous te remercions. Puisqu'il te plaît, Seigneur, est-ce que tu agrées? C'est lorsqu'un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille ou un vieillard s'approche de toi, en te faisant confiance, en te faisant foi à tes promesses et à ta parole. Et ainsi, Seigneur, eh bien, reçoivent tout simplement la vérité telle qu'elle est, celle qui vient de toi, enseignée par l'Esprit. Merci parce que tu nous sauves. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.